France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand Dürer signe l'une de ses œuvres majeures, la gravure Mélancolia, en 1514, il se trouve lui-même plongé dans une profonde tristesse, après avoir perdu sa mère cette même année. Cet élément de sa biographie est assez connu, mais ce qu'il est peut-être moins, c'est la série de correspondances qu'il a établies dans son œuvre, entre justement cette mélancolie, qu'il vivait lui-même à cette époque, et un ensemble de symboles qui s'apparentent à un ésotérisme chrétien. Dans le récit de la passion et aussi de la rédemption qui suivra, le sentiment de la tristesse tient évidemment une importance capitale. Voici L'Ange et l'Angelot, quatrième volet d'une série de 5 émissions consacrées à Dürer et l'Ange de la mélancolie dans Les chemins de la connaissance en 1982.
Dans sa substance la plus intime, la mélancolie est nostalgie de l'amour. De l'amour sous toutes ses formes et à tous ses degrés. De la sensualité la plus élémentaire jusqu'à l'amour suprême de l'esprit. L'impulsion de la mélancolie est l'éros, l'exigence d'amour et de beauté. Romano Guardini. Albert Dürer et l'ange de la mélancolie. Claude Gagnebé, Claude Mettra. L'ange et l'angelot.
Le personnage central de la tragédie spirituelle qui se joue dans la gravure de Dürer, c'est l'ange de la mélancolie dont les ailes recourbées semblent vouloir dans le lointain chercher un espace que nul regard ne saurait atteindre. Cette mélancolie, nous dit Erwin Panofsky, cette mélancolie abattue, de plus inclinée vers le sol, environnée et même obscurcie par des ombres, munie des instruments des arts et de la science, plongée en outre dans l'inaction, elle donne l'impression d'un créateur réduit au désespoir par la prise de conscience des barrières insurmontables qui le sépare d'une sphère de pensée plus élevée. Mais si nous nous attachons à la nature angélique du personnage, nous comprendrons mieux peut-être la nature de son déchirement.
C'est le même ange qui participe d'une part à la naissance, mais même à la conception, c'est-à-dire que on affirme dans le Talmud que notre ange, l'ange qui nous est associé, va chercher une âme qu'il place dans un sein féminin, et que c'est ce même ange qui apparaît au moment de la naissance, puis qui apparaîtra au moment de la mort. On comprend qu'il n'y ait aucune contradiction à les représenter, mais on comprend aussi que l'ange Gabriel soit particulièrement mélancolique lorsqu'il médite près de la pierre du sépulcre. On a un moment d'immobilité qui est le même moment qui désigne à la fois l'Annonciation et Pâques. Il y a, au point de vue du calendrier, une preuve, disons, absolue qui nous est donnée de la possibilité de cette interprétation. De la possibilité de cette interprétation chrétienne, c'est que Pâques et l'Annonciation sont à la même date. L'Annonciation a lieu un 25 mars, Pâques a lieu un 25 mars. Si nous voulons situer calendairement cette scène, nous sommes à un 25 mars qui, à l'époque, était l'équinoxe de printemps. Alors, nous avons au moins deux preuves, disons, de la possibilité de cette interprétation. Au-dessus de la tête de l'ange, nous avons le sablier qui est à mi-course, c'est-à-dire qui marquerait égalité des jours et des nuits. C'est bien une manière de désigner l'équinoxe. Et surtout, c'est la méditation de l'ange sur le chiffre 34. On a dit donc que ce chiffre 34, et c'est vrai, appartient à Jupiter. Si l'on veut faire une lecture, comme on n'hésitait pas à le faire à la Renaissance, en disant qu'au fond, Dieu avait le même nom chez tous les peuples et que qu'on l'appelle Yahvé ou Jupiter, c'était Dieu partout, eh bien là, nous avons donc le chiffre du Père qui vient d'envoyer l'ange pour l'Annonciation, et le chiffre du Père, c'est 34, mais ce chiffre du Père contient en lui tout le cycle de vie du Christ, puisque le cycle de vie du Christ va se faire depuis l'Annonciation 25 mars jusqu'à 34 ans plus tard, Pâques 25 mars. Donc, le chiffre 34, c'est le chiffre circulaire entre l'Annonciation et Pâques. Et on comprend que l'ange Gabriel, le nom de Gabriel voulant dire l'homme d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est bien déjà un ange, s'il s'appelle l'homme, qui va méditer, bien sûr, sur le sort du Dieu humain dont il annonce l'incarnation, eh bien, on comprend qu'il médite sur un compas, c'est-à-dire sur un cercle, sur le cercle qui va avoir pour mesure 34 années, et qui est le cercle entre Annonciation et Pâques, qu'il médite sur le cercle de la pierre qui ferme le sépulcre, et qu'il médite enfin sur le cercle ou la boule de ce que les kabbalistes appellent le Gilgal, c'est-à-dire la doctrine de la réincarnation. Puisque l'événement, disons, essentiel de la vie du monde va être les 34 ans de présence sur cette terre d'un être d'origine divine, d'un être qui est bien descendu en deçà de certains cercles qui nous sont représentés en arrière-plan, et qui va choisir le chiffre de 34, qui représente chez les Grecs, disons, un aller-retour de génération. Exactement, nous avons 17 et 17. À 16 ans exactement, les Grecs sont censés se marier, avoir un enfant, et puis opérer un retour de 16 plus un an, jusqu'au moment de la naissance de leur premier petit-fils. Et c'est ce qu'on appelle une génération conçue comme quelque chose de circulaire. Eh bien, assez curieusement, le chiffre même de 34 là est celui qui se retrouve chez les Grecs pour désigner une génération, c'est-à-dire le moment où, au fond, avec la naissance de notre premier petit-fils, nous retrouvons le monde comme il était au moment où nous y sommes venus, et nous sommes, après un cercle que nous avons opéré dans le monde même, nous sommes comme libérés et comme à un moment où, au fond, nous pourrions mourir. Eh bien, ce chiffre-là s'inscrit parfaitement. Dans cette perspective, que faire du second petit ange, de sa position, comme vous le voyez, au sommet d'un cercle lui-même? C'est-à-dire que cette pierre, au fond, ne peut rouler que si elle entraîne l'angelot qui est situé sur lui, soit à droite, soit à gauche, mais plus bas que le niveau auquel il est parvenu. C'est ce qu'on pourrait appeler une véritable roue de fortune, telle qu'elle est représentée au Moyen-Âge, eh bien, il faut revenir au personnage de Gabriel et se demander ce qu'a pu faire Gabriel. Et Durer a réfléchi sur tous les récits, bien sûr, évangéliques, mais surtout sur le récit qui est le seul qui fasse apparaître deux fois Gabriel, c'est-à-dire le prologue de Luc. Dans le prologue de Luc, nous apprenons qu'une première fois Gabriel est descendu et qu'il est apparu au père de Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire à Zacharie, et que 6 mois plus tard, il est apparu, et qu'il est apparu à ce moment-là à la Vierge Marie. Donc on sait qu'il y a 6 mois de différence entre les deux naissances, bien sûr, et je pense que l'allusion qui est faite avec ce deuxième ange est une allusion à Saint Jean-Baptiste. Il suffit de regarder un peu le détail. D'abord, ce deuxième ange est sur une tunique de poils, qui est l'emblème de Saint Jean-Baptiste, bien que cette tunique de poils soit retournée. Et puis, vous savez que, par exemple, lorsque l'on demande au Christ qui est Saint Jean-Baptiste, s'il est Élie, s'il est lui-même le Messie, etc., le Christ répond en disant « Non, c'est le plus grand des fils nés de femmes, mais le plus petit dans le royaume des cieux, et je crois que là, c'est ce petit ange qui est ici désigné, le plus petit est plus grand que lui. » Et d'autre part, il dit, Jean-Baptiste lui-même dit, « Il faut que je diminue pour qu'il croisse. » Et on voit très bien que la position même où il est situé, comme s'il était, disons, dessus. Au-dessus, ne peut que lui permettre de décroître lorsque le Christ apparaîtra au moment de sa résurrection dans toute sa gloire. Donc la position même évoque au fond la manière même dont on représentait, si vous voulez, comme sur les deux plateaux d'une balance, ou plus exactement d'ailleurs, comme sur les deux phases d'une roue de fortune, exactement, Jean-Baptiste, dont la naissance est située au solstice d'été, et le Christ, dont la naissance est située au solstice d'hiver, il ne peut pas y avoir de mouvement de l'un sans qu'aussitôt il n'y ait aussi mouvement de l'autre.
Il y a aussi quelque chose de très touchant dans la figuration qu'en fait Durer. C'est celle de cet angelot qui, avec son stylet, semble s'appliquer à accumuler les signes comme s'il interprétait dans l'écrit ce qui est le songe de la mélancolie.
Oui, je crois que de la part de Durer, c'est un peu lui qui est représenté, sûrement, puisqu'il manie un burin.
C'est le messager.
Et que c'est sûrement le messager. Durer, qui connaît parfaitement, là je crois qu'il nous le montre, qui connaît parfaitement le texte évangélique, et plus particulièrement le texte de Luc, est très sensible à quelque chose qui frappe tous ceux qui essayent de transmettre des secrets en silence. Car ici, il s'agit bien d'un secret transmis en silence, puisque tout ce que nous avons, nous n'avons aucun texte de Durer relatif. C'est un dessin dont il nous dit, maintenant...
Débrouillez-vous,
en quelque sorte. Eh bien, ça, la scène est connue. La scène est connue, et la scène du stylet est connue. C'est qu'en effet, Zacharie, lorsqu'il reçoit l'annonce de Gabriel, doute. Et il est frappé de mutité. C'est-à-dire que lorsqu'il sort, il fait des signes. Et, chose curieuse, on a beaucoup discuté, mais dans le texte, il semble que non seulement il soit rendu muet, mais il est sourd. Il est sourd parce qu'on estimait d'ailleurs dans la médecine à l'époque qu'il y avait une correspondance, qui paraît peut-être évidente, entre l'oreille et la gorge. Que par exemple, c'est pour cela que lorsque l'on se frotte l'oreille, on se met à tousser, ou réciproquement. Eh bien, on estimait donc qu'il était muet, et la preuve, c'est qu'il était sourd. Non seulement muet, mais sourd. Mais on lui fait comprendre par signe, on lui demande par signe, quel doit être le nom de l'enfant qui vient de naître, car on voulait l'appeler Zacharie comme son père. Or, l'ange, Gabriel, avait demandé à ce qu'il soit appelé Jean. Il demande des tablettes, et grave sur ces tablettes, Jean et son nom. De sorte que si nous reconnaissons dans cette tunique de poils celle de Jean, si nous reconnaissons dans ce petit ange une allusion au plus petit du royaume des cieux, il faut imaginer que ce qui est gravé par ce petit ange, c'est Jean. C'est Jean, c'est-à-dire quelque chose dont nous allons retrouver, bien sûr, au niveau des gens qui vont essayer d'exprimer quelque chose par des signes, parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Ce que nous allons retrouver dans l'ensemble des personnages mélancoliques dont le nom est désigné par I, ou J, c'est la même lettre, auquel on fait allusion dans le panneau Melancholia I, c'est aussi la mélancolie de Jean, évangéliste, bien sûr, l'image même du grand ange est nette, mais en parallèle avec Jean, évangéliste, en parallèle, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est très souvent représenté, on a de merveilleux tableaux de Bosch, par exemple, représentant la mélancolie de Jean-Baptiste dans le désert. Eh bien là, nous avons les deux Jean. Nous avons les deux Jean, et de même que nous avons vu que le Christ et le Baptiste se partagent l'an, on sait que Jean et Jean, puisqu'ils sont situés respectivement aux deux solstices, là aussi, Jean et Jean, selon l'expression populaire, se partagent l'an.
On peut trouver dans les diverses parties de notre corps des images qui s'harmonisent avec les prérogatives des puissances célestes. Les yeux qu'on leur attribue signifient qu'elles se portent avec une parfaite transparence vers les lumières divines, puis reçoivent avec délicatesse, souplesse, sans nulle résistance, mais au contraire dans un mouvement rapide, pur, large, les illuminations divines. L'odorat, chez les natures célestes, symbolise, selon nos moyens, leur empressement à respirer les fusions embaumées qui dépassent tout sentiment, ainsi que leur pouvoir de discerner avec science ce qui ne vient pas de Dieu pour le fuir totalement. L'ouïe signifie qu'elles ont part à l'inspiration divine et l'accueillent avec connaissance. Le goût, qu'elles sont comblées des nourritures spirituelles et boivent aux ruisseaux divins et vivifiants. Le toucher, qu'elles savent discerner avec science le profitable du nuisible. Leur air d'adolescence et de jeunesse, qu'elles possèdent assez de vie pour être toujours dans la fleur de l'âge. Le cœur est le symbole de la vie déiforme qui répand avec bienveillance sa propre puissance vitale sur tous les êtres qu'elle pourvoit. La poitrine signifie que les esprits célestes ont la fermeté de l'acier pour protéger les fusions de la vie, comme la poitrine protège le cœur. Les pieds symbolisent leur mobilité, leur promptitude et l'empressement de leur mouvement éternel vers le divin. C'est pourquoi la parole de Dieu représente les pieds des esprits célestes avec des ailes. Car les ailes évoquent l'envol rapide vers le ciel, la voie ouverte pour l'ascension et par l'ascension, l'arrachement au terrestre. Et la légèreté des ailes veut dire que rien ne les attire vers la terre, mais qu'elle s'élève sans alliage et sans poids vers les hauteurs. Denis l'Aréopagite.
Dans la figuration médiévale et renaissante de l'ange, on se trouve en face de l'angélisme qu'on pourrait qualifier de féminin ou de masculin, c'est-à-dire que les anges tirent plutôt du côté d'une certaine féminité gracieuse. Tantôt, ils ont l'apparence d'une certaine virilité martiale. Tandis que la figuration que donne ici Dürer de la mélancolie, de Gabriel, de l'ange, en fait une créature où le féminin et le masculin semblent inextricablement mêlés.
Si nous y reconnaissons... Alors, Gabriel, on sait qu'en effet, là, le problème du sexe des anges explique que l'on ait cette figuration. Si nous y reconnaissons Jean l'évangéliste, à Patmos, Jean l'évangéliste, il faut le rappeler, c'est le seul des apôtres qui ait été toujours vierge, qui est toujours représenté imberbe et qui a un côté très féminin. Donc là aussi, on comprend que cet ange ait cet aspect parfaitement ambigu qui nous est indiqué ici. Je pense que les très fortes épaules qui lui sont données, enfin cette force, les épaules sont énormes, va du côté d'un autre ange qui, assez curieusement, clôt non plus l'histoire du Christ, mais l'ensemble de l'histoire du monde. C'est l'ange de l'Apocalypse. C'est l'ange fort qui est désigné d'ailleurs comme l'ange fort de l'Apocalypse, et là, qui d'ailleurs est proche bien sûr de Saint Jean, et qui est en rapport bien sûr avec l'amertume. En continuant l'interprétation qui, pour l'instant, voit là une allusion d'une part au destin du Christ, d'autre part au destin de Saint Jean-Baptiste, les représentations astrologiques prennent un sens absolument naturel, si l'on veut, puisque l'on sait, bien sûr, ou du moins l'on suppose à cette époque, au moins dans un premier temps, comme on le suppose encore maintenant, que le Christ et le Baptiste sont nés respectivement 25 décembre, 24 juin, et que ce sont des périodes qui sont soigneusement décrites par Luc, qui était médecin. Eh bien, il est facile de constater que au-dessus de la tête de l'ange qui représente Jean-Baptiste, nous avons la balance, car en effet, c'est sous le signe de la balance qu'a été conçu Jean-Baptiste, et que si nous prolongeons cette ligne, nous parvenons au cancer qui est représenté ici par les pinces, et que c'est bien sous le signe du cancer que naît le Baptiste. Si nous faisons la même chose très exactement pour... En alignant, enfin, il suffit de véritablement, verticalement, si nous faisons la même chose pour l'ange qui représente Gabriel, nous avons conception de l'ange, conception donc du Christ, annonciation, un moment qui est représenté par équinoxe de printemps, donc égalité du jour et de la nuit, le sablier. Et si nous prolongeons, nous parvenons à la bourse. Je pense que c'est une allusion à une période très importante pour l'alchimie, dans laquelle se situe par exemple la fête justement de Saint Jean évangéliste, qui était patron des alchimistes, que l'on a appelé, qui existe dans toute l'Europe, qui existait bien sûr à cette époque dans l'Europe, les jours d'or. Les jours d'or, ce sont les 12 jours qui sont entre Noël et l'Épiphanie, et ces jours d'or sont représentés par cette bourse qui est située exactement dans l'alignement. Donc là, nous pouvons, je crois, faire une lecture chrétienne. Il suffit donc, après, de la prolonger, par exemple, d'imaginer très simplement que l'ange Gabriel, comme bien souvent il est représenté, a été obligé de descendre à travers les sphères pour l'Annonciation, et qu'il est descendu par les 7 barreaux de l'échelle que l'on aperçoit en arrière-plan, qui sont les 7 barreaux des planètes, tout simplement, que avant, donc, dans la nuit qui précède l'Annonciation à Marie, il médite sur le chiffre 34 avant de quitter l'atelier de Joseph, que la mélancolie même de Joseph, puisque Joseph est souvent représenté lui aussi comme un mélancolique, va s'expliquer comme une des mélancolies de ces personnages dont l'initial est I, en arrière-plan. Que, enfin, puisqu'il fait savoir à Marie que l'Esprit de Dieu viendra la couvrir, eh bien, dans cette allusion, disons, à la descente du souffle, nous explique qu'il est en partie dissimulé sous sa robe un soufflet. Un soufflet qui est un instrument à souffle, un instrument à esprit, et que le fait qu'il le dissimule en partie, bien sûr, montre que l'on n'est pas encore au moment où Marie va être fécondé. Il y a enfin un dernier élément qui est sa position même. Car aussi bien les théologiens que les mystiques, que les gens qui s'occupaient d'iconographie à l'époque, s'était souvent interrogé sur le lieu même de la fécondation et qu'on avait estimé bien souvent que c'était l'oreille. L'oreille droite, l'oreille gauche. Ici, nous voyons l'ange appuyé de manière assez nette, me semble-t-il, appuyé sur l'oreille gauche. Or, l'oreille gauche étant l'oreille féminine, un certain nombre de gens ont estimé que c'était bien par l'oreille gauche que les paroles de l'Annonciation angélique avaient pénétré dans Marie et avaient commencé l'incarnation. Cette position même, bien sûr, qui se retrouve dans la mélancolie, peut être un rappel de l'importance de d'une annonciation qui va frapper l'oreille de Marie. Si nous avons tout autour les instruments de la Passion, 34 ans plus tard, bien sûr, une oreille joue un rôle important 34 ans plus tard, lorsque l'on a fait, si vous voulez, ce que l'on peut presque imaginer ici comme le tour de la tête de Gabriel, c'est l'oreille droite, car l'évangile de Jean nous dit qu'un des serviteurs du grand prêtre, qui s'appelait Malchus, c'est-à-dire le roi, s'étant approché avec une lanterne pour saisir le Christ dans le jardin, c'est Pierre qui saisit un couteau assez court et lui coupe l'oreille droite. Et assez curieusement, le Christ aussitôt s'adresse, puisque l'oreille droite est coupée à l'oreille gauche, si l'on peut dire, et fait savoir qu'il ne peut pas refuser la boisson d'amertume, bien sûr, qui lui est réservée.
Il y a un autre élément qui est assez essentiel aussi, ce sont les clés qui pendent le long de la robe de l'ange.
Cela suppose peut-être que l'on pense à un autre mélancolique qui joue un rôle très important au moment de la Passion. C'est le personnage de Saint-Pierre. Lorsque l'on relit la notice qui lui est consacrée dans la légende dorée, on s'aperçoit que Saint-Pierre, toujours représenté avec ses clés, connaît en pleine nuit un moment de mélancolie, un moment de tristesse, un moment de pleurs. C'est le moment où il renie par trois fois le Christ, par trois fois avec les chants du coq qui sont une annonce de la mort et peut-être de la résurrection du Christ. Et de manière assez curieuse, Jacques de Voragine ajoute que Saint-Pierre n'arrêta pas de pleurer et qu'il pleura tant que son visage en devint noir de mélancolie. Et la manière même dont on représente dans la cour, quand on s'adresse à lui, Saint-Pierre, d'abord reniant le Christ, et puis sa tristesse. Quand il pleure, les pleurs sont rares, au fond, dans les évangiles, peut, à mon avis, expliquer la présence de ces clés, qui serait une allusion à un mélancolique qui va être à l'origine, puisqu'il lit et délit sur terre et dans les cieux, disons, de toute la liturgie des défunts, de la mort et de l'espoir de la résurrection, puisque les clés de Saint-Pierre sont celles qui permettent de circuler entre le ciel et la terre.
C'était Les chemins de la connaissance par Claude Métra et Claude Guignebet, Dürer ou l'ange de la mélancolie, quatrième volet, l'ange et l'angelot. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 mai 1982.